bienvenue sur J'enrage, votre émission féministe lilloise. Pour cette 41e émission, alors quel jour on est déjà? Le 1er mars, voilà, très bien. Pour cette 41e émission, alors au programme d'aujourd'hui, nous sommes allés au Salon des bouquineuses le week-end dernier, donc c'était le 20 et 22 février, le Salon des bouquineuses de chez Violette, et on est allé prendre un peu de son à la lecture de contes antisexistes avec Juliette Baron, donc on vous passera le reportage. Et ensuite, la deuxième partie qui concernera la minceur, de la pression sociale à la discrimination grossophobe. Voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à Anaëlle pour l'agenda.
Alors, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes à Lille, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles organise une marche le samedi 7 mars. Donc le rendez-vous est à 13h30 place de l'Opéra et il y a plusieurs interventions dans la marche et une soirée qui se termine à Moulins. L'entrée est libre et pour plus d'informations, rendez-vous sur www.cid2f-lille-nord.org. Il y a également une soirée spéciale femmes le 9 mars au Grand Sud organisée par la mairie de Lille. Il y a des coupons d'inscription à remplir qui se trouvent avec le programme complet sur www.lille.fr. En dehors de cette journée internationale des droits des femmes, il y a une lecture spectacle qui s'appelle Les Pionnières, présentée par la compagnie Grand Boucan sur l'égalité professionnelle. Donc il y a trois représentations. Il y a le samedi 7 mars à 18h30 à la salle Saint-Jean, rue Victor Hugo à Saint-André, pardon. Le samedi 14 mars à 11h à la base de loisirs de Capelle en Pével. Et le lundi 23 mars à 10h15 à la maison de la recherche à Lille 3, à Pont-de-Bois. Le mercredi 11 mars, le cinéma L'Univers projette le film Caramel réalisé par Nadine Labaki, à l'initiative de l'association Femmes Solidaires. La projection sera suivie d'un débat avec Marie-Jo Bonnet, historienne féministe, et Marie-Reine Koutsi, femme libanaise. Dans le cadre, là pour le coup, de la Journée internationale des droits des femmes, il y a une exposition qui s'appelle Her Way, du 7 au 12 mars, à la Cave des Célestines, dans le Vieux-Lille. L'entrée est gratuite et il y a le vernissage le 7 mars en compagnie des artistes et il y a un concert. Il y a également une exposition de Pauline Parmentier, qui est une dessinatrice qui s'intitule Amazon, à l'Ancama Restaurant 62 Boulevard d'Amantière à Roubaix. Il y a une expo aussi d'un collectif de femmes artistes qui invite à réfléchir au thème du genre féminin et de la féminité, comment elle est vécue, vue et transcrite par ces artistes d'origine multiple, du 14 au 21 mars, du jeudi au samedi de 14h30 à 18h30 à la galerie QSP de Roubaix, le bureau d'art et de recherche, 112 avenue Jean Lebas, donc à Roubaix, et l'entrée est gratuite. Et le jeudi 12 mars, de 14h à 22h, à l'espace culturel Université de Lille 1, donc métro Cité Scientifique, il y a la journée L'approche par le genre dans les politiques publiques, le cas de la femme migrante, par l'association des étudiants de Master 2 Ingénierie des projets de coopération. Dans la dynamique de la journée de la femme, dans la journée des femmes, pardon, l'association dresse un bilan des droits des femmes migrantes et des enjeux actuels. La journée se clôturera avec la pièce Femmes au bord de la nuit par la compagnie Regarde Eva. Enfin, à Paris, jusqu'au 4 avril 2015, est présentée une pièce de théâtre pour enfants qui s'appelle Prince ou Princesse, That's Not the Question, par la compagnie Baraka Théâtre au Cinétresse Théâtre à Montmartre. Voilà, c'est une pièce de théâtre qui revient sur les stéréotypes de genre chez les enfants.
Voilà, donc il y a quoi de faire en cette première partie, première moitié du mois de mars, et puis surtout la semaine prochaine avec le fameux 8 mars, ce sera dimanche prochain, et la marche qui aura lieu le 7, du coup samedi.
Ouais, voilà.
Tout de suite, on vous passe le montage. Alors dans ce montage, il y a plusieurs contes qui ont été lus. Il y a Poca et Mine, le football de Kitty Crowther, et Mon papa est comme si de Sandrine Beau, illustré par Sophie. Et vous entendrez aussi la jolie voix de Juliette Baron, comédienne qui a lu ces deux, qui a fait cette lecture de contes antisexistes. On vous le passe tout de suite.
Poca et Mine, le football. Aujourd'hui, Poca et Mine vont au parc. C'est un très bel après-midi, le temps idéal pour flâner sous les ombellifères. Au bout d'un certain temps, Poca propose: on va s'asseoir? Pocadou, je veux faire du foot, s'exclame Mine. Mais c'est un sport de garçon, ça, répond Poca. Oui, alors ? Le lendemain, Poca et Mine vont inscrire Mine au club de football le plus proche. Elle reçoit une tenue toute neuve. Mine est aux anges.
Il faut acheter des protège-tibias et des chaussures à crampons, dit l'entraîneur.
Mine ne quitte pas son équipement. Oh, regarde, Pocadou, des Gibbs.
Oh, elles sont un peu chères, Mine, dit Poca.
Mais je suis sûre qu'avec celles-là, je jouerai mieux. S'il te plaît, je t'aimerai jusqu'au bout de la vie et même au-delà.
Je pensais que tu m'aimais déjà comme ça, dit Poca en riant.
Demain, tu as ton premier entraînement, Mine. Il faut que tu dormes.
C'est la première fois.
Bonjour, moi je m'appelle Juliette Baron, je suis comédienne, auteur et conteuse. Et là, donc aujourd'hui, on s'est rencontrés dans le cadre d'une lecture qui se passe chez Violette, une lecture à destination surtout des enfants. Mais voilà, en fait, c'est pour, vraiment pour petits et grands. Donc là, l'idée, c'était de présenter, puisque c'est chez Violette, c'est une association donc qui accueille les femmes. Surtout, aujourd'hui, on est en mixité, c'est-à-dire que hommes et femmes et enfants sont là, et c'est super. Donc, on a lu ensemble des livres de jeunesse qui parlent du quotidien des enfants et de leurs parents.
Et c'est la première fois que Mine se retrouve sur un terrain de foot. Les présentations sont vaguement faites. Mine voudrait disparaître sous terre. Mine a fait 10 pompes et elle court autour du terrain depuis un bon moment et l'entraîneur dit « Un peu de nerf, Mine !» Hé, c'est pas parce que t'as des gibbs aux pieds que tu sais jouer au foot !» crie l'un des garçons. Après l'entraînement, Mine doit attendre que les garçons aient fini pour prendre sa douche. Mine se douche enfin. Elle aimerait bien pleurer, mais elle n'y arrive pas. Poca l'attend. Mine se jette dans ses bras et éclate en sanglots. Poca est fâchée. Je vais aller dire deux mots à cet entraîneur.
Non ! Surtout pas, supplie Mine.
« Tu es sûre ?»«
Oui, oui, » répond-elle.
C'est l'heure du thé et des petits gâteaux. Poca dit « Si tu veux, tu peux arrêter le football ?»«
Non, je veux continuer. »
Et Mine demande « Est-ce que je peux avoir de la peinture et peindre le mur du fond du jardin ?»«
On ne peut pas faire ça. »
Et Poca, il a dit oui. Il a même dit, bien sûr.
Pourquoi on appelle ça en fait des livres antisexistes ? Moi, je suis pas dans l'analyse spécialement, mais ce que je peux en dire, en tout cas, c'est que on est vraiment dans une création de, on est vraiment dans l'accueil en fait de la vie, de l'énergie, qui est pas du tout quelque chose de genré, quoi.
Alors, Mine. Elle a fait des cercles et elle est toute contente. Il paraît que peindre calme et apaise. Mais ce n'est pas du tout pour ça que Mine peint. Bien au contraire. Mine s'exerce à viser. Elle s'entraîne avant d'aller à l'école, le soir aussi et les jours qui suivent. Jusqu'au samedi du match. Mine doit rester assise sur le banc. Aucune équipe ne gagne pour le moment. Le match est nul. Si seulement je pouvais être sur le terrain, soupire-t-elle. Un de leurs joueurs est blessé.
Vas-y, Mine, tu peux le faire, crie l'entraîneur. Oh non, dit le blessé, c'est fichu maintenant.
Mine serre les poings.
Elle récupère le ballon, court vers les buts et tire! Bravo, Mine! On a gagné, ils ont perdu, crient tous les garçons de son équipe. Il propose même à Mine de prendre sa douche avant eux. Poca et Mine rentrent à la maison, heureux.
Mine, je suis vraiment fière de toi, dit Poca.
Pocadou, je veux faire du ballet.
Mais c'est un sport de fille, ça, répond Poca. Et Mine dit, oui, et alors?
Donc là, par exemple, il y a eu une lecture donc, de Poca et Mine, le livre qui s'appelle Le football, c'est écrit par Kitty Crowther. Et en fait, la petite Mine souhaite essayer différents sports. Elle envoie dans un parc. Hop, elle a envie de se mettre au foot. Et au final, à partir du moment où elle arrive à être acceptée, où elle arrive à force d'entraînement à commencer à se faire à ce sport, à bien se débrouiller, et ben voilà, elle veut tout de suite passer à autre chose, à la danse. Elle voit des danseurs danser, elle veut passer à la danse. Et là, on voit bien que naturellement, on est appelé, si on est vraiment dans son authenticité, et les enfants sont comme ça au démarrage, on est tous comme ça, dans l'authenticité de notre désir, de nos envies, de notre énergie, et ben on va se diriger vers des choses naturellement, on va avoir des centres d'intérêt beaucoup plus diversifiés, et on va pas du tout être dans ces notions qui après nous polluent. Il y a aussi, et je pense que ça libère énormément tous ces livres-là, puisqu'il y a aussi toute la collection « Ma maman est comme ça, mon papa est comme ça ».
Mon papa, c'est le plus fort. C'est le roi de la tarte aux mirabelles.
Les papas, ça fait pas des gâteaux.
Ben, le mien, il fait des tartes aux mirabelles, des clafoutis aux cerises et des îles flottantes aussi. Ah, il fait cuisinier comme métier alors. Non, il fait pas de métier.
Pas de métier. Mais les papas, ça travaille.
Et c'est fatigué quand ça rentre le soir.
Ben, le mien, il rentre pas, il est déjà là.
Oh, il fait chômeur alors.
Mais non, il s'occupe de ma petite sœur.
Quoi? Il garde un bébé?
Ou pareil, on a des papas un petit peu atypiques, même si pour moi chacun l'est. Donc c'est des histoires écrites par Sandrine Beau et illustrées par Soufi. Et en fait, dans ces histoires, on voit qu'il y a un papa qui est un homme au foyer. Donc ça étonne beaucoup la petite copine. Et finalement, la petite copine repart avec sa maman qui est habillée comme une patronne. Voilà, donc encore une fois, ça retourne aussi. On est tous un peu l'étranger, le bizarre de l'autre, quoi. Et finalement, tous ces albums sont empreints d'énormément de tendresse et d'amour, puisque c'est surtout les liens parents-enfants qui sont valorisés. Et on s'aperçoit que c'est ça aussi qui nous aide à être le plus soi-même et le plus au service finalement de la découverte de qui on est, et non pas dans un genre, quoi, non pas de se ranger dans un genre complètement cadré, et l'idée qu'on se fait d'un genre, voilà. Donc voilà, mais ce que j'aime beaucoup dans ce genre de littérature, c'est que c'est très libre, évidemment. Il n'y a pas de... Enfin, c'est tout fou, c'est tout fantasque. Et je pense que d'être fantasque, c'est essentiel, quoi, dans la vie. C'est ce qui est le plus sérieux à faire, quoi, être fantasque.
Voilà. Et quand tu... Voilà, voilà, on est de retour sur RCV, toujours 99 FM. On est le dimanche 1er mars. Il est 14h17. C'était donc Juliette Baron, comédienne, qui avait fait la lecture de ses petits contes antisexistes au Salon des bouquineuses de chez Violette la semaine dernière. On vous mettra en ligne l'interview complète de Juliette Baron. Elle y parle notamment d'un de ses projets qui est assez intéressant, d'écriture et de mise en scène de textes écrits à la fois par des personnes incarcérées et des proches d'incarcérés. Voilà, projet qui se déroule plutôt sur Paris. On vous la donnera via la page Facebook. Tout de suite, on vous passe une chanson « Grosse tortue » des Ogres de Barbac, sortie de l'album « Croque-noce » en 2001. Voilà, à tout de suite.
J'avais eu le courage de mes opinions, j'aurais été un peu moins sage en écrivant mes chansons. J'aurais parlé du sida, celui qui a tué mes copains, de la misère et de l'état qui nous mange le pain sur le dos. Si j'avais été moins sage en écrivant mes chansons, j'aurais parlé du chômage et des gens sans oignons, du FN qui fait rage, des gens qui votent que pour des cons, des gars morts bien avant l'âge, assassinés sans raison par des bourreaux. Mais je ne suis qu'un chanteur de variété, de soupe, de variété, j'appelais ça comme vous voudrez. Je mets les mots là après l'auto-hasard pour faire les couplets. Je m'occupe à des partoches et je fais les refrains en anglais comme un con. Si j'avais eu l'audace d'avouer mes sentiments en ce qui concerne la face toujours cachée de mes amants, de grandes soirées à secret, un petit repas déguisé, doux supplice, fort caprice, belle entrée, dessert au fouet dans la nuit. En ce qui concerne la face toujours cachée de mes amants, c'est du masculin, c'est du viril évidemment. Je n'ai jamais aimé les femmes autrement qu'en dentelle dans des journaux infâmes qui m'ont fait homosexuel, c'est la vie. Mais je ne suis qu'un flambeur de soirée mondaine. Les top modèles en fleurs poussent comme de la mauvaise graine. Je mets deux mots là après l'hôtesse, sont toutes folles de moi. Je fais ma petite gueule d'apôtre et mes grandes allures de roi. Des aboutis. Si j'avais eu la force, simplement pour un je t'aime, en soulevant l'écorce de mon corps rempli de crème, j'aurais pensé tout haut ce que j'ai toujours chuchoté par un ami, vaut 100 000 euros, partageons le temps qu'on est là, c'est la rue. En soulevant l'écorce de mon corps rempli de crème, en faisant une entorse au règlement de Salem, je vous aime tendrement, vous riez-vous de nous sans arnaque, diboniment, tout partager avec vous, c'est pointu. Mais je ne suis qu'une grosse tortue, en porche décapitée, j'ai la carcasse en alu, et le cœur en assez chromé, j'ai le mépris de l'inconnu, la classe du porte-monnaie, des amis qui courent pas les rues, l'amitié qui porte un grand mais, c'est foutu. Si j'avais su retrouver mon enfance pour mourir sans être déçu, loin des cimetières de France, faire enfin ce long voyage, celui qui perce à mes nuits, prendre ce train volage qui me promettait sans sursis du tempo. Pour mourir sans être déçu, loin des cimetières de France, me retourner sans mon vécu, sans me soucier des distances, à la limite en Ardèche, mes cendres dispersées sur un arbre, une flèche qui transperce un cœur brûlé, rigolo. Mais je suis cette grosse tortue dans cette grosse boîte en or que l'on transporte au salut sur des tambours trop forts. Y'a ma tête et mon cul qui négocient sans façon contre quelques pauvres qui leur place au Panthéon. Oh oui, cette grosse tortue dans cette grosse boîte en or avec sa carcasse en alu et son cœur de porc. Et sa tête et son cul négociant sans façon contre quelques pauvres qui le droit.
Voilà, vous êtes de retour avec Jean Rage sur RCV 99FM. Il est un peu plus de 14h20 et nous allons tout de suite vous passer un montage sur l'injonction à la minceur et la grossophobie. On fera un retour et dessus juste après.
Comment expliquer la minceur selon moi? Je sais pas, pour moi c'est une personne qui est pas maigre. Maigre, ça a un aspect maladif, enfin, une personne malade. Mince, c'est une personne qui est pas malade, mais qui est fine, quoi. Et voilà, ça peut être une personne qui se sent très bien dans sa peau comme ça, qui a aucun problème avec son poids. Et en même temps, ça peut être aussi une personne qui s'impose ça psychologiquement, donc c'est pas lié, enfin c'est surtout la minceur, c'est physique.
Gros, c'est vraiment une boule par rapport à une taille.
Bah, la minceur, c'est une façon de voir les choses. En même temps, on n'a pas tous la même définition, on n'est pas tous formalisés de la même manière, donc ça peut être ressemblé aux gens de la télé. Au top modèle des magazines, comme être juste bien dans sa peau et se sentir bien. J'associe la minceur au bien-être, physique plutôt. C'est quand même un trait physique. C'est aussi être en forme et bien se sentir, en fait, tout simplement, je pense.
C'est un idéal que je ne peux pas atteindre parce que ce n'est pas possible physiologiquement. Et c'est être plus mince que ce que je suis comme maintenant. J'aimerais être mince. J'ai toujours rêvé d'être mince. Et je ne le serai probablement jamais. Et je ne l'ai d'ailleurs jamais été. Ou très peu de temps. Je veux être mince parce que c'est beaucoup plus facile pour s'habiller. Et parce que quand je suis plus ronde, j'aime pas mon corps. Esthétiquement, c'est pas joli. C'est super difficile pour s'habiller et pour ressembler à quelque chose. Je me trouve pas élégante ni jolie quand je suis grosse. J'allais dire quand on est gros, on est moins joli quand on est mince, mais c'est pas vrai. C'est une question de charisme, une question de comment on le porte et comment on le vit.
Non, c'est pas un idéal. Ça l'a peut-être. Enfin, je sais pas si ça l'a été un jour, mais j'ai fait attention à mon poids. Pendant une certaine période. Et puis à partir du moment où j'ai plus trop fait attention, ben, j'ai commencé à maigrir, mais j'en avais plus rien à secouer, quoi. Mais non, c'est pas un idéal, parce que j'ai accepté depuis quelques temps mon corps, et quand je dis que je l'ai accepté, c'est que c'est pas que... Je l'accepte malgré les formes qu'il a, c'est que je l'accepte comme il est et je me sens bien dans ma peau. Donc c'est plus un idéal, ça l'a peut-être été au moment de le début de l'adolescence et l'adolescence, mais maintenant toutes les pressions que je reçois par rapport à la minceur, j'en ai un peu rien à taper, quoi.
La grossophobie, oui, c'est les gens qui n'aiment pas les gros et qui les traite ou qui les voit d'un mauvais œil, ou oui, c'est bien sûr, ça me parle. Ah oui, personnellement, j'ai la grossophobie, ça me parle, parce que quand j'étais par exemple à l'école primaire, j'avais, à chaque fois qu'il y avait la récréation, il y a une fille de ma classe qui me suivait dans la cour et qui me disait grosse tarte, grosse patate, tout le temps, quoi. Donc j'ai vécu ça toute ma primaire. Après, ça s'est calmé. Non, étant adulte, la grossophobie ne me touche pas. Même les gens, quelquefois, me disent « Mais non, t'es pas grosse. » Je dis « Mais si, t'as pas vu et tout. »
Je pense que si t'es en surpoids, tu te prends plus de réflexion que si tu l'es pas, quoi, sur ton, enfin, lié à ton poids, clairement. Et puis dans ton entourage proche, je pense qu'il y a plein d'ados qui ont une pression de ouf vis-à-vis de leurs parents, qui insidieusement font comprendre que faudrait faire attention à ce que tu manges, mais c'est pas pour ton poids ou ton apparence, c'est plus pour ta santé. Ok, ça c'est sûr, d'accord, c'est bien de faire attention à ce qu'on mange pour sa santé, mais il y a souvent un double sens, quoi. Non, on peut pas dire que j'en ai été victime, moi, personnellement, mais j'ai vu... Et je pense que peut-être j'ai eu une attitude grossophobe que j'ai pas exprimée verbalement, que j'ai pas exprimée, parce que je sais que... Je pense que j'ai eu cette attitude, peut-être, mais que j'ai jamais été... j'ai toujours su que c'était pas correct. Enfin, que c'était pas... que c'était naze, quoi, donc... Je pense que j'y ai pensé. J'ai eu peut-être des pensées grossophobes.
Bah, c'est la peur d'être grosse, je suppose. Bah, si on prend la grossophobie dans les termes ne pas aimer les gros, effectivement, c'est du racisme. C'est discriminatoire, ouais.
La grossophobie, c'est une discrimination, bien sûr, puisqu'il y a des gens qui ne peuvent pas, par exemple, obtenir un poste de, je sais pas, je vais dire... secrétaire ou hôtesse d'accueil, parce qu'ils sont ronds et que c'est pas super joli, ça répond pas au canon de la beauté, au canon de la minceur, etc. Oui, bien sûr. Je vois bien qu'il y a des gens qui sont gros et qui sont sur lesquels on jette un regard pas très gentil. Donc oui, même en dehors du travail, dans la vie de tous les jours.
C'est carrément une forme de discrimination pour moi. Dans tout, en fait, on te fait comprendre que manger des trucs qui te feront grossir, c'est pas bien, quoi. Dans tout, dans les pubs, dans tout ce que tu veux, sur les emballages de la bouffe, dans la rue.
Ah, on n'a pas du tout le même regard sur les corps quand on a affaire à un homme ou une femme, parce que la femme, il faut tout. Dès qu'elle est grosse, on lui dit ouais, t'as vu ces grosses meufs, ce gros tas, machin, qu'on dit jamais rien sur un homme qui est gros. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas d'égalité devant la grosseur entre les hommes et les femmes, clairement. Les hommes peuvent se laisser. Les hommes, s'ils sont gros, on leur dit rien. Les femmes, si elles sont grosses, on dit ouais, elle fait pas attention, elle devrait faire régime, etc. Ça, on ne dit pas ça pour les hommes. Ah non, c'est pas normal du tout.
C'était faux il y a quelques années et je pense que ça devient vrai maintenant. C'est-à-dire qu'avant, c'était que les femmes et de toute façon, les hommes, ils avaient. Enfin, ils étaient moins soumis à la discrimination, je pense. Même si c'est pas entièrement vrai, mais maintenant. Alors, à la base. Enfin. Quand j'étais plus jeune, on va dire, quand j'étais au collège, au lycée ou ce genre de choses, les hommes étaient plus soumis à ce genre de discrimination quand ils étaient gros ou trop minces ou ce genre de choses. Maintenant, c'est même les hommes tout à fait normaux qui sont juste pas musclés et qui ressemblent pas aux mannequins des magazines se sentent pas bien dans leur peau non plus, alors qu'ils sont comme la plupart des gens.
Non, je pense pas que ça soit... Ça soit jugé de la même manière, le surpoids ou. Enfin, si tu sors un peu de la norme de minceur, de l'injonction à la minceur, que tu sois un homme ou une femme, je pense pas que ça soit jugé de la même manière. Parce qu'un homme, avant d'être jugé gros, il a une marge, j'ai l'impression, avant d'être gros, il va être costaud, il va être fort, il va être. Mais ce sera un truc plus ou moins normal. Être un homme, c'est être viril, enfin, pour la société, c'est ça, c'est être viril, c'est être costaud, c'est savoir assumer des tâches physiques, etc. Et pour ça, il faut être blindé, et machin, machin, machin. Une femme, non, en fait, on va se dire que si elle a un surpoids, c'est parce qu'elle a bouffé comme une tarée, parce qu'elle n'a rien à faire de ses journées, ou parce qu'elle ne sait pas se contrôler, ou enfin... On incite plus les hommes, on leur apprend plus à être costauds que à être comme ils peuvent être, quoi, comme ils sont. Enfin, c'est vrai qu'un mec qui est plutôt mince, bah là, direct, on va se poser des questions. Il est fragile, il est malade, il est pédé, il est, enfin voilà quoi. Il répond pas au code de la virilité, quoi. Une femme, elle est mince, elle est normale, quoi. Où elle est canon.
Oui, je trouve que la société nous dit qu'il faut être mince. Maintenant, on n'est pas obligé de les écouter. Et on a le droit d'avoir notre propre avis. Même si on peut se laisser influencer par ce qui se dit à la télé ou dans les magazines, si on s'écoute nous-mêmes, on se sent pas mal dans notre peau pour autant, même si on ne ressemble pas au stéréotype, on va dire. À partir du moment où on est bien entouré, qu'on se sent bien dans notre peau, on peut tout à fait faire abstraction de ce qui se dit dans les médias et même en rire un petit peu.
De manière générale, bien sûr que j'ai conscience de cette pression à être, enfin, on te pousse à faire attention à toi, à ton corps, à ce que tu manges, à faire du sport pour maigrir, pour te maintenir. Enfin voilà, parce qu'il faut donner une image nickel.
C'est pas normal qu'on... Alors, je suis beaucoup plus indulgente avec les autres qu'avec moi-même. Les gens qui sont gros dans la rue ou dans mon entourage me gênent absolument pas. Je me dis pas, ah, ils devraient faire un régime ou... Ça me gêne pas, les gens sont comme ils sont. Mais pour moi, avoir quelques kilos de trop me gêne. Mais ça n'a rien à voir avec l'image qui est véhiculée par la société de « il faut être mince pour être beau ».
Ouais, ah. c'est un peu contradictoire, c'est que les hommes rattrapent les femmes dans ce sens et en même temps, après, on commence à voir de plus en plus de femmes rondes qui posent, de publicité même autour de la rondeur, du fait que ce soit bien et qu'il n'y a pas que les top modèles et qu'en plus, c'est vraiment pas... Enfin, c'est pas être en bonne santé qu'être trop mince, quoi. Faut pas... C'est un peu exagéré.
Enfin, dès qu'on commence un peu à se questionner sur tout ça, on a déjà fait un grand pas quand... Parce que c'est là que ça se joue, c'est quand on commence un peu à remettre en question toutes les images qu'on voit et à se dire, mais en fait... Non, quoi. C'est basta. C'est... Moi, les gens que je vois, les gens que je côtoie... Ils sont pas comme ça et c'est des vrais gens, quoi. Enfin...
Ouais, le prêt-à-porter est pas fait pour les gros. C'est vrai qu'on est quand même influencé par les vêtements qu'on trouve. Si je trouve que j'ai du mal à m'habiller, c'est parce que je trouve des vêtements qui vont pas, forcément. Et c'est pas seulement une question de taille, c'est une question de coupe, après. Un vêtement ajusté près du corps, si tu le prends en taille 48, il restera toujours ajusté près du corps et ça fera pas joli. Ouais, je trouve que les vêtements suivent pas les morphologies. Alors, je trouve que les magasins qui développent des lignes de vêtements pour les personnes rondes ou grosses, c'est très bien. Par contre, c'est super cher parce que forcément, ça sort du circuit habituel. C'est fait en petite quantité, donc c'est cher. Mais je trouve ça génial. Parce que c'est pas parce qu'on est gros qu'on n'a pas le droit d'être coquette et qu'on n'a pas envie de s'habiller avec des choses un peu plus jolies.
Voilà, on est de retour sur RCV, encore une fois, 99FM, on est toujours dimanche et vous êtes toujours avec Jean Rage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec ces témoignages? Moi, il y a quand même un premier truc qui me frappe, c'est que sur la question « c'est quoi la minceur finalement ?» ou « qu'est-ce que tu associes avec la minceur ?» qui était une réponse quand même relativement ouverte, les réponses sont déjà contradictoires. D'un côté, c'est un trait physique, la minceur c'est physique, mais c'est aussi... bien se sentir dans sa peau, et c'est quelque chose auquel on ne donne pas d'importance quand on est bien dans sa peau. Donc c'est un peu contradictoire de se dire que ça a à voir avec le bien-être et à la fois que c'est un trait purement physique. Ça m'a fait me dire tout de suite que finalement la minceur c'est pas juste un trait physique, c'est ce qu'on appelle un concept. Alors moi je parle de concept de minceur, parce que je parle de minceur comme... pas seulement comme un état de fait, un trait physique, mais une représentation abstraite de la minceur. Donc autrement dit, la minceur c'est à la fois un trait physique, mais c'est également ce à quoi on l'associe, enfin ce qu'on associe à la minceur. Là, un truc qui revient, c'est la notion de bien-être, comme je le disais. Soit on a, dans ces témoignages-là, donc de ces trois personnes, minceur égale bien-être directement, soit c'est quelque chose à laquelle on ne porte pas d'intérêt, la minceur, si on se sent bien dans sa peau. Donc si je me sens bien, je m'en fous de la minceur, et vice-versa. On pourrait dire que si je ne suis pas bien dans mon corps, pas seulement physiquement, mais du coup psychologiquement aussi. Contrairement à ce que disent les témoins de manière un peu contradictoire, si je suis pas bien dans mon corps, la minceur, je m'en fous pas. Donc c'est peut-être un pur sophisme ce que je vais faire, hein, j'en sais rien. Peut-être que c'est un raisonnement faussement logique, mais on peut émettre l'hypothèse que le concept même de minceur, donc ce qu'on associe à la minceur, le bien-être, la beauté, etc., ça dépend des personnes, ça, ce concept même, l'existence de ce concept, pourrait être l'origine du mal-être des personnes qui ne correspondent pas physiquement et psychologiquement à l'idée de minceur.
Pour rebondir là-dessus et pour reprendre ce qui a été dit aussi dans le montage, il y a un moment, il y a une des témoins qui dit que quand on n'est pas mince, quand on est gros ou rond, etc., on est plutôt sujet à des réflexions, etc. Et justement, comme la minceur est un concept, finalement même quand on est mince, on est ou plus mince ou plus rond que quelqu'un d'autre auquel on se compare ou auquel on est comparé. Et du coup, pour donner un exemple précis, moi je sais que je suis perçue comme étant relativement mince, je me perçois comme étant relativement mince. N'empêche qu'il y a toujours des moments où on me dit que je suis trop mince parce que j'ai des copines qui sont minces aussi et qui se comparent à moi et qui se trouve moins mince que moi, et du coup voilà, on n'est pas soumis aux mêmes réflexions. Alors après, c'est peut-être moins difficile à vivre aussi parce que c'est pas une discrimination pour le coup, donc là-dessus je suis tout à fait d'accord, mais on n'est pas soumis aux mêmes réflexions. N'empêche qu'on n'est pas on nous laisse quand même pas tranquille parce qu'il y a toujours un moment où quand on est mince, on tend vers la maigreur, et la maigreur, là justement, c'est une maladie. Et du coup, on oscille toujours entre, si tu fais du 36 avec 1m70, t'es vraiment à la limite de ton IMC normal. Si tu descends encore un peu, ça craint, quoi.
IMC, c'est du coup...
indice de masse corporelle.
Voilà, juste pour rappeler. Mais effectivement, le poids des normes, hein, comme d'habitude, si on s'écarte légèrement de la norme, que ce soit... au-dessus ou en dessous, là, en l'occurrence pour le poids, forcément, tout de suite, on est pointé du doigt et on est sujet à des railleries, des violences verbales, voire physiques dans le pire des cas, ou tout simplement un regard qui te fait te sentir différent, quoi.
Mais du coup, voilà, ça te rejoint sur le fait que la minceur est un concept et que tout le monde l'analyse et l'intériorise exactement comme il veut, en fait.
Voilà. Alors, deuxième petite chose qu'on peut... sortir de ces témoignages, il y a effectivement une injonction à la minceur. En tout cas, les personnes qui témoignent sont d'accord avec ce fait-là. Et il y a une discrimination grossophobe. Alors dans le montage, il est évoqué des regards, des réflexions, des remarques pernicieuses avec un double discours sur la santé, mais qui cache souvent quelque chose de moins louable, on va dire. Des pubs, ça va jusque la taille des vêtements finalement, qui te dit bah il faut que tu rentres dans ça en fait, c'est ça la norme, donc tu dois rentrer dans ça. Si tu rentres pas dedans, bah ça, tant pis pour toi quoi, en gros.
T'es hors norme, mais voilà.
Et du coup, t'as besoin d'avoir des vêtements qui sont hors norme et qui sentent pas partout. Et en contrepartie, il a été évoqué aussi une espèce de campagne d'amélioration de l'image des gros et des grosses, ou voire de la grosseur, on peut dire, qui est pas forcément, ou dans laquelle on se dit que c'est pas forcément synonyme de mauvaise santé, ni de laideur, comme on peut le, enfin de laideur au sens traditionnel du terme. Enfin, voilà. Donc, en somme, il y a une remise en question du modèle de beauté dominant qui commence apparemment à se profiler.
Ouais, en même temps, là-dessus, enfin, je suis assez sceptique aussi parce que ça reste des mannequins. Et donc, en général, les filles, elles ont un tour de cuisse qui peut être un peu plus important que la moyenne, un tour de taille et un tour de poitrine, mais elles n'ont pas de ventre et elles ont... Enfin, voilà, ça reste des femmes rondes dans une certaine limite, quoi. Elles ne dépassent pas le 40, quoi.
Il y a aussi une autre réflexion que je me faisais au moment même où j'étais en train d'écouter le reportage. C'est que, finalement, même s'il y a cette intention de vouloir remettre en question le canon de modèle. Ouh là là, je sais plus faire mes phrases.
Le modèle de la beauté.
Voilà. Il y a quand même une rondeur qui reste, en ce qui concerne les femmes en tout cas, sexualisée. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas juste elle est ronde et voilà, c'est elle est ronde, mais en fait elle a des formes, elle a une poitrine.
Ouais, ça dépend d'où t'es ronde en fait.
Voilà. Et même si t'es ronde à d'autres endroits où typiquement on dit que c'est pas cool de voilà, bah t'es quand même féminine ou je sais pas quoi. C'est pas, on fait pas l'apologie de la rondeur chez les femmes qui s'habillent comme des sacs par exemple. Donc c'est pas une réelle remise en question bien évidemment de ces canons de beauté là quoi. Voilà. Et puis une dernière chose peut-être qui ressort de ces témoignages. Donc bien évidemment les questions étaient un peu orientées, mais étant donné qu'on a des réponses bien différentes, on se rend compte que c'était pas non plus hyper orienté. Mais il y a un truc qui ressort, c'est la disparité des pressions sociales qui s'exercent sur les corps des femmes, donc cis ou trans, hein, bien évidemment, et des hommes, cis ou trans, encore une fois. Et dans le montage, il y a trois points de vue différents. Il y en a un qui soutient que les personnes perçues comme hommes dans la société, font tout ce qu'ils veulent et qu'on leur dit rien. Un deuxième point de vue qui soutient que l'injonction à la minceur et à la musculature a déjà conquis le terrain de la beauté canonique masculine et que de plus en plus d'hommes cèdent à la pression sociale du corps parfait. Et il y a un troisième point de vue qui soutient qu'en fait il n'y a pas d'injonction à la minceur chez les hommes ou qu'elle est moindre et qu'en fait un homme en tant que détenteur ou je ne sais pas comment le dire des qualités physiques et psychiques de la virilité, donc la force, le courage, l'endurance et tout ça, il doit correspondre à ces qualités-là qui sont typiques de la virilité. Et du coup, il est plus poussé soit à être musclé, soit au moins à être épais, on va dire, je ne sais pas comment le dire autrement. Et finalement, les hommes bénéficient d'une marge assez importante avant d'être qualifiés de gros, avec les mêmes idées derrière que la manière dont on va qualifier une femme de grosse. Et avec tout ce que ça comprend, gros, donc mauvaise santé, problème de diète, etc. Et c'est vrai que... alors sur le truc des gamins, quand t'es gamin, un petit garçon ou une petite fille, gros ou grosse, je pense qu'il se prend quand même pas mal de trucs, pareil. Mais quand on est un peu plus vieux, à partir de l'adolescence, quand t'es en surpoids ou quand t'es en sous-poids, quand t'es une meuf, je pense qu'on associe tout de suite ça à des troubles psychiques aussi, des troubles de l'alimentation, et rarement chez les mecs.
Ouais, c'est les troubles alimentaires chez les mecs sont encore tabous en plus.
Malheureusement.
Ouais. Et juste pour revenir sur ce que tu disais par rapport aux fringues et tout, moi je me rends compte aussi, alors c'est plutôt une question ouverte que je pose, mais pour les fringues qui sont faites pour les femmes plus rondes, on trouve énormément de fringues super colorées, beaucoup plus que dans la mode de prêt-à-porter habituelle. Et je me demande, enfin là, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pour montrer qu'elles voient la vie en couleur, qu'elles sont bien dans leur peau et qu'elles mettent des couleurs flash pour qu'on les regarde. Ou... Enfin, tu vois, je me pose la question de savoir pourquoi il y a très peu de couleurs ternes, il y a peu de noir, ou alors dans certaines formes de vêtements, parce que le noir amincit, machin et truc, et qu'on trouve du rose, du jaune, du flash, quoi.
Oui. J'ai pas la réponse à cette question.
C'était une question ouverte.
On va faire une petite pause musicale avec une chanson de Björk, Stone Milker, donc premier titre de son dernier album Vulnicura, sorti en 2015. Et on revient tout de suite après. À tout de suite.
A juxtaposition in face. Mutual coordinates. Moments of clarity are so rare. I better document this. At last
so
revenir, on est toujours dans la chanson à la minceur et moi j'ai plutôt fait une rubrique plutôt sociologique. Alors je me fonde sur deux articles. Un article de José Luis Moreno Pestaña qui en français s'appelle Le marché préfère les minces et donc qui revient sur le fait que, enfin sur l'injonction à la minceur et les stéréotypes de la minceur dans le monde de l'emploi. Je vais pas le présenter entièrement parce que c'est pas le propos, mais il y a des choses assez intéressantes dessus, dedans. Et je me fonde aussi sur un article minceur, deux points, les vérités que l'on n'ose pas dire sur psychologie.com. Et qui revient sur pas mal de choses sur la minceur aussi. Alors, dans l'article de José Luis Moreno Pestaña, il revient entre autres sur l'idée qu'il y a une culture corporelle de classe, et donc en fait qu'entre les milieux populaires ou les milieux aisés, le surpoids et les manières de se fringuer ne sont pas aperçus de la même manière. Ce qui ajoute à la discrimination physique, la discrimination classiste. Et comme on est une émission intersectionnelle, voilà, c'était le moment d'en parler. Donc dans les milieux populaires, il est globalement, accepté, on va dire, qu'il y a peu ou pas de recherche esthétique lors de la socialisation primaire, donc la socialisation par la famille, parce qu'il y aurait un manque de moyens pour choisir la nourriture ou encore un manque de moyens pour choisir les vêtements, oui. Pardon, je parle trop près de mon micro, ça m'a fait des grands signes. Ouais, on a été surexcités par la chanson là, je vais essayer de me concentrer. Donc les vêtements sont souvent... On va jamais réussir.
Pardon, c'est une thématique sérieuse en plus, hein, on prend ça à cœur.
Donc... les vêtements sont souvent peu chers et pratiques. En tout cas... je t'entends rire dans le micro en fait. J'arrive pas à me concentrer, bref. Donc, pardon. Les vêtements ne sont pas... il faut que t'arrêtes de rire dans le micro parce que je t'entends rire et j'arrive pas à me concentrer.
Mais non, mais en fait, je suis en train de me dire que maintenant, on est une émission où on vous donne des petits conseils minceurs et on vous donne des petits conseils pour vous habiller. Non, c'est pas
non, ça. Non, c'est sérieux.
On essaie de reprendre son sérieux, oui.
Donc arrête de rire dans le micro, si tu veux rire, coupe ton micro. Donc, les vêtements dans les milieux populaires ne sont pas utilisés dans une démarche de mise en valeur de soi. Et comme il y a un capital culturel restreint, on n'a pas de connaissances ou peu de connaissances, voire pas d'intérêt pour la mode et les canons de beauté, etc. Alors c'est... je ne suis pas en train de vous raconter ce que je pense. Hein.
Donc oui, j'allais dire, en gros, on est pauvre et du coup, on ne sait pas s'habiller.
En gros, c'est ça l'idée. Mais c'est ce qui est globalement véhiculé. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de véhiculer. C'est pas... Les sociologues reviennent là-dessus en le critiquant. Et je suis plutôt du côté des sociologues. Mais voilà, en gros, c'est ce qui tend à être véhiculé. Alors que dans les milieux aisés, qui est un milieu dominant, on pourrait faire une description inverse ou une description en miroir. Donc on fait attention à ce qu'on mange, on mange des produits sains pour rester mince, on s'habille avec goût pour se mettre en valeur, etc. Et donc le capital économique et le capital culturel étant mobilisés dans la pression exercée sur les corps, si on est obligé de catégoriser sociologiquement parlant, c'est ce qu'on vient de faire là, les milieux pauvres sont mal fringués et les milieux aisés sont bien fringués. C'est hyper stigmatisant dans la réalité. Parce que par exemple à l'école, on en parlait, enfin Zab en parlait tout à l'heure, chez les petits garçons et chez les petites filles, l'apparence c'est le premier vecteur de lien social, c'est la première, le premier truc qu'on voit et qui permet d'aller vers les gens ou de rejeter les gens. Et donc la morphologie et les tenues vestimentaires sont révélateurs du milieu social dans lequel on évolue avec cette injonction et ce rapport au milieu social. Et donc par exemple, on apprend très jeune aux filles à se mettre en valeur. Il y a une valorisation de la minceur dans nos sociétés. Il y a une importance des vêtements qui mettent en avant les bonnes courbes, donc on en parlait tout à l'heure aussi, les seins, les fesses, et qui marquent la finesse de la taille. Et donc au discours discriminant sur les petites filles plutôt rondes voire grosses s'ajoute un autre discours discriminant sur la qualité des vêtements. Donc il y a qu'un pas vers l'amalgame, nous avons parlé tout à l'heure. Les milieux populaires mangent des nourritures consistantes qui tiennent bien au corps, qui sont grasses, riches en calories, alors que les autres font plus attention, etc. Et donc il y a plusieurs regards qui incriminent ces filles et ces garçons parce que finalement il n'y a pas beaucoup de différences sexuelles faites à l'âge de l'école primaire par exemple. Donc il y a plusieurs regards qui incriminent ces enfants, celui des autres enfants de l'école qui les jugent, qui les classent et qui les dénigrent en fonction de leur apparence, celui des médecins qui lèvent la menace de l'obésité super vite et celui des adultes, à commencer par les parents, alertés par la menace de l'obésité et parfois aussi par le rejet subi par leur enfant. Donc il y a une triple incitation à maigrir. Donc ça c'est dans l'article de Rosé Luis Moreno-Pestaña et dans l'article Minceur, les vérités qu'on n'ose pas dire. Cet article s'appuie sur les analyses du psychiatre et psychothérapeute Gérard Apfeldorfer qui est spécialiste des comportements alimentaires. Et donc globalement, sans s'arrêter aux stigmates ni aux enfants, le poids n'est plus seulement une question personnelle, si tant est qu'il l'ait déjà été un jour. La société en particulier, je pense les sociétés occidentales et capitalistes, donc les sociétés dominantes, exigent implicitement la minceur des femmes. Il n'y a qu'à regarder la télé et compter le nombre de pubs concernant le poids et la minceur, sous couvert de bien-être et de bonne santé. Cette injonction à la minceur pose deux grands problèmes principaux. Un problème personnel et individuel de mal-être, de mauvaise conscience et de culpabilisation des femmes dont le physique ne serait pas conforme aux diktats sociaux. Un problème social d'exclusion de ces femmes et de discrimination au faciès et classiste, notamment dans le monde de l'emploi, mais pas que. L'exigence sociale de la minceur est d'autant plus sournoise qu'elle est implicite, bien qu'elle soit omniprésente. Et ce qui est plus... Ce qui est plus grave encore, c'est que tout le monde a intériorisé cette injonction, en fait. Les femmes, elles sont, comme il y avait une témoin qui le disait aussi dans le montage, les femmes sont hyper exigeantes avec elles-mêmes, beaucoup plus avec elles-mêmes qu'avec leur entourage, parce qu'elles ont intériorisé cette injonction à la masseur et que si elles sont pas minces, elles se sentent pas bien. Donc tout le monde a intériorisé cette injonction et cette recherche perpétuelle de la perfection physique. Et ça ne concerne pas seulement le poids, mais ça commence par le poids. Ce qui n'est pas dit non plus, c'est qu'en cherchant activement à maigrir à coup de régime, etc., et même en allant, jusqu'à la chirurgie esthétique, les femmes ne se sentent pas plus heureuses. Au contraire, il faut se surveiller constamment, se contenir et se priver, refouler ses envies alimentaires, faire taire sa faim. C'est frustrant, c'est très culpabilisant si elles craquent, et c'est malsain parce qu'on n'est jamais assez mince finalement. Et si le modèle esthétique repose sur les mannequins engagés pour tourner des pubs sur les bienfaits de tel ou tel produit ou posant dans les magazines, il est trompeur. Tout est retouché dans les photos, etc. Et du coup, on donne l'idée d'une perfection et d'une seule perfection érigée en modèle et en modèle arbitraire. Le danger, c'est que les femmes l'intègrent comme une norme à leur mode de pensée et à leur mode de vie et qu'elles s'y conforment ou cherchent à s'y conformer absolument. C'est une manière détournée de contrôler les femmes et une manière hyper malsaine puisque ça contrôle leurs envies malgré leur physique selon les exigences extérieures et souvent masculines en plus. Les plus virulentes à porter cette norme sont les femmes, donc ça je l'ai déjà dit. L'injonction à la minceur s'ajoute à celle de maigrir dans le plaisir, on en voit dans les pubs, etc. Il faut maigrir, il faut faire des régimes, mais ça veut pas dire
se priver. Il faut se restreindre et aimer ça.
Oui, c'est ça, et puis même, c'est les régimes, finalement ça fait plaisir en fait, on peut manger mais moins, on peut manger du chocolat mais ne manger que du chocolat. On peut manger léger sans avoir faim parce que c'est assez consistant et tout, ce qui n'est pas vrai. Et donc la culpabilisation est double pour les femmes qui souffrent de leur régime, alors qu'on leur montre partout que le régime, c'est l'éclate. Si on fait bien attention à comment on le fait, Sauf qu'en fait, le régime, c'est pas du tout l'éclate. Donc, manger de tout, mais moins, faire du sport pour éliminer. Faire du sport pour éliminer, manger des produits pauvres en sucre, en calories, light, etc. Manger moins ne veut rien dire. En fait, il faut manger jusqu'à ce qu'on ait plus faim. Enfin bref, après, on risque de tomber dans des conseils, beauté justement, mais c'est pas la question. C'est juste qu'effectivement, se questionner sur pourquoi on veut mincir, pourquoi on se sent mal dans notre peau et où est-ce que tout ça commence, c'est déjà une première question relativement importante dans l'injonction à la minceur parce que, comme tu disais tout à l'heure, en conclusion de ta rubrique, effectivement, si on se sent mal dans sa peau, est-ce que c'est pas parce que on nous demande d'être mince finalement et qu'on n'arrive pas à se conformer à une norme et que tous les un peu hors normes sont stigmatisés alors qu'on est tous le hors norme de quelqu'un finalement, parce que la norme c'est complètement arbitraire et on n'est pas enfin même si on vit en société, on n'est pas un seul et unique individu à mettre d'accord quoi. On est tous des individus différents et avec des envies, des besoins et physiologiquement, en plus dans le cas de la minceur, physiologiquement il y a énormément de choses qu'on peut pas forcément faire. Morphologiquement parlant, on peut pas devenir mince comme on veut, si on veut, d'où on veut, on peut pas grossir des seins et perdre du cul, enfin voilà, c'est si on veut avoir les bonnes formes, ça reste hyper arbitraire et c'est dangereux. Voilà,
donc on conclura sur ça. Remettre en question un peu ces normes de beauté, ces canons, etc. Et toute cette pression sociale que tout le monde intériorise, femmes, hommes, petits, grands, et à tout âge aussi également. Et remettre en question un peu ces choses-là et essayer de non pas réfréner ses envies, mais plutôt réfréner ce qui est de l'ordre du... Comment dire, de l'intérioriser quoi.
Ouais. Et puis l'inculquer aussi, parce qu'une fois qu'on a réussi à faire ce travail-là, si on a des enfants, on peut aussi leur transmettre pour éviter qu'eux-mêmes intériorisent cette norme-là et souffrent en étant plus jeunes. Et même avec notre fou rire, on a réussi à être à l'heure.
Voilà. Alors en conclusion, on vous passe un conte, encore une fois, lu par Juliette Baron, un conte qu'on a enregistré au Salon des bouquineuses de chez Violette. Je ne sais pas si vous l'aurez en direct, vous l'aurez en différé sur le podcast. Ce conte, c'est un conte anti-grossophobie, c'est pour ça qu'on vous le passe. C'est tiré d'un livre qui s'appelle « Une maman tout entière » de Luc Mélenchon, pas Jean-Luc Mélenchon, Luc Mélenchon et Olivier K. Et puis on se dit à dans 2 semaines.
À dans 15 jours, salut.
Salut, salut.
Bon dimanche.
Une maman tout entière. À la mémoire d'Adrienne, ma grand-mère tout entière. Luc Mélenchon. Ma maman, elle est grosse. Très grosse. C'est la plus grosse maman du monde. Quand elle entre dans ma chambre, elle prend toute la place. Elle penche à gauche, elle penche à droite, elle se penche sur moi. Je ne vois rien d'autre qu'elle. Ses mains sont des oreillers, ses bras des traversins et ses seins. Dès que je pose la tête dessus, j'ai envie de m'endormir en souriant. Maman, elle fait des bisous bruyants, ça fait schmops sur ma joue et ça me chatouille. Ce sont des baisers qui veulent dire « Je t'aime tellement que j'ai envie de te manger ». Moi, ça ne me dérangerait pas de te manger par ma maman. Des fois, dans la rue, il y a des enfants qui la montrent du doigt. Ils disent à leur maman « Regarde comme elle est grosse, la dame ». Ça me rend fière. Ma maman, elle pourrait prendre 20 enfants dans ses bras si elle voulait. Mais il n'y a que moi qui en profite. Dans le bus, maman occupe 2 places. Mais moi, je m'assois sur elle, alors ça revient au même. Sauf que moi, je suis mieux installée que les autres. Si tous les sièges étaient aussi confortables que ma maman, eh bien les gens seraient plus heureux. Quand elle rit, c'est tout son corps qui rit. C'est un tremblement de rire. Il n'y a pas longtemps, elle a dit « Il faut que je maigrisse. Je vais faire un régime. » Un régime. Après, elle s'est mise à faire attention à ce qu'elle mangeait. Cela ne lui faisait pas plaisir, ça se voyait.
Elle avait l'air triste en regardant son assiette. C'est normal. Une petite assiette comme ça, c'est pas pour une grosse maman. C'est comme si on donnait un tout petit os à un gros chien. C'est ridicule. Je lui ai demandé « Pourquoi tu veux maigrir ?»« Pour être plus jolie », elle m'a répondu. « C'est idiot. Elle ne sera pas plus jolie, elle sera moins grosse, c'est tout. Et moins tendre et moins moelleuse. » Je m'imaginais déjà avec une maman toute maigre, sans poitrine, sans ventre, avec des bras comme des brindilles. Oh, j'aurais trop peur de la casser. Pour lui montrer que je trouvais ça bête, moi aussi, j'ai entamé un régime. Plus de salade, parce que ça rend gluant comme des limaces. Plus de patates, parce que ça transforme la cervelle en purée. Plus de viande hachée, parce que ça fait devenir vache. Et plus de yaourt, parce que c'est trop blanc. Ça efface toutes les couleurs. Maman m'a demandé pourquoi je faisais des difficultés pour manger. Je lui ai appris que, comme elle, j'étais en plein régime. Elle a rigolé. Il n'y avait pourtant rien de drôle à cela. Elle m'a dit « Tu n'as pas besoin de maigrir. Tu es très bien comme tu es. » Je lui ai répondu « Toi non plus. Tu es la plus belle des mamans du monde. » Elle m'a fait un gros bisou et puis elle a abandonné son régime. Elle s'est remise à manger des assiettes pleines. Elle a retrouvé son sourire. Le repas est redevenu une fête. Oh, ça me manquait. Je lui ai dit « Je préfère quand tu ne fais pas de régime. » Elle m'a dit au moins aussi. « Mais tu sais, c'est surtout pour les autres. » « Les autres ? Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans, les autres ?» Chez maman, tout est gros. Son corps, son appétit, son amour. Moi, je veux qu'elle reste toujours comme ça. Et je veux toujours m'endormir dans ses bras mous. Parce que c'est tellement doux que rien ne peut m'arriver.